Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Mais qu'est-ce qu'ils ont à nous maltraiter avec leur positif ? Des supermarchés qui nous enjoignent de positiver à la colère ou la tristesse qui seraient des émotions négatives, chacun se devrait d'être positif. Ouvrons notre troisième oreille et essayons d'entendre ce qui se cache derrière l'emploi si invasif du mot « positif » et de tous ses produits dérivés. Être positif, me direz-vous, ce serait être joyeux, s'émerveiller des autres, sourire entre les larmes, épargner à notre entourage nos humeurs les plus sombres. Voilà qui est sans doute souhaitable, préférable souvent, mais certainement pas sans le mode mineur ou les jeux du clair-obscur que le positif exclut. Car être positif semble exclure les facettes de tristesse, de peur, de colère, sans lesquelles pourtant nous ne serions qu'une moitié de nous-mêmes, et sans lesquelles aucune sonate, aucun poème ou aucun tableau n'aurait certainement vu le jour. Pourquoi donc cela serait-il négatif? Une fois de plus, logique de comptable. Pas question d'avoir le compte des humeurs en négatif, pas question non plus d'être à découvert. Et même s'il s'agissait de ne pas céder aux passions tristes, pourquoi ne pas parler de joie de vivre, d'enthousiasme curieux ? Pourquoi est-ce ce mot de positif qui s'est imposé et répandu comme un vilain virus, alors même qu'être humain, c'est accueillir des moments de joie et de tristesse, laisser alterner plénitude et vacuité. Comment en est-on arrivé à cette logique déshumanisante, cette logique où la comptabilité est partout ? C'est qu'être positif, ce n'est pas seulement ne pas être négatif, c'est surtout que ne pas être positif, bah, c'est être nul. Logique du tout au rien, du 1 ou du 0. Dans cette logique totalisante et potentiellement totalitaire, ce qui est positif, c'est avoir plutôt que pas avoir. Après tout, me direz-vous, rien d'étonnant dans une société matérialiste, qui plus est, jusque-là gouvernée par du masculin, où avoir ce petit plus entre les jambes et ce gros plus dans le portefeuille a toujours fait la différence comme les 25 ans d'expérience de Nutella. Le zéro, lui, a toujours fasciné. L'informatique a eu l'intuition géniale que les questions du monde pouvaient se modéliser avec du 0 et du 1. L'ère numérique du système néolibéral, tout à ses soucis de productivité et de rentabilité, cherche à fondre le vivant dans cette modélisation. Le système de questions devient un système dans lequel ne pas répondre est impossible. Qu'on réponde oui ou non, il faut répondre, qu'il y ait réponse. Pas de vide possible, pas de nul, pas de négatif, que du positif. Le numérique, en écrivant le monde sous la forme d'une succession de 0 et de 1, a pensé réaliser le fantasme d'un monde total. Il a organisé les rapports du 0 et du 1, du creux et du plein, du oui et du non, en oubliant qu'il y a toujours un peut-être, qu'il y a toujours d'autres façons de répondre ou de ne pas répondre. Que les humains, ça ne s'emboîte jamais tout à fait parfaitement, qu'il y a toujours un reste, et que ce reste s'appelle l'amour, l'art, l'humour, et que ce reste s'appelle l'humanité. Cette logique de la réponse, c'est la logique du oui ou non, du pour ou contre, une logique qui divise. Mettez le mot que vous voulez derrière la question « pour ou contre », la corrida, le port du voile, les rapports avec pénétration, si nous excluons le « je ne sais pas » ou le « je n'ai pas de réponse » ou « pas la même à chaque fois » ou « cela dépend de tant de choses qu'on ne peut pas donner une réponse générale », bref, si nous ne laissons pas une place vacante, nous allons nécessairement obtenir deux clans algorithmables, deux clans que nous nommerons 0 ou 1 selon nos goûts et nos couleurs qui, comme chacun le sait, ne se discutent pas. Dans ce monde virtuel qui repose sur l'élimination illusoire du manque, les combats entre ceux qui entrent dans les cases et ceux qui sont à la marge, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, quoi qu'il s'agisse d'avoir, seront de plus en plus violents et radicaux. Et ça, pas virtuellement. Tout ce qui ne rentrera pas dans les petites cases sera forclos de la réalité. Et il suffit d'avoir affaire à n'importe quel service client numérique pour prendre conscience que certaines réponses ne sont tout simplement plus possibles. Nul doute que cette impossibilité à ne pas répondre, c'est-à-dire à ne pas penser ni sentir en nuance, va de pair avec une radicalisation des idées et donc des croyances qui opposent les zéros et les uns. Nul doute encore que ces petits mots anodins, en mettant insidieusement en place une logique du tout ou rien, restreignent l'espace de la rencontre et transforment le dialogue où je pense à travers l'autre en débat où mon opinion se heurte à l'opinion de l'autre, les renvoyant dos à dos dans un jeu de miroir où elles deviennent parfaitement équivalentes. Car finalement, il ne s'agit pas tant de choisir entre le positif et le négatif, ou même entre le positif et le nul. Dans ce système où nos pensées et nos émotions sont d'un côté ou de l'autre, en définitive, on se moque bien qu'elles soient de ce côté ou de l'autre, pourvu qu'elles soient dans un lieu repérable. Il nous faut penser quelque chose de tout. Et au fond, ce qui importe, et c'est bien ce qui arrive, c'est qu'étant d'un côté ou de l'autre, elles s'annulent les unes les autres. On arrive ainsi à cette chose monstrueuse que tout ou rien, oui ou non, vrai ou faux, ce soit pareil. Et si tout s'équivaut, on ne voit pas comment parler serait encore possible. Penser et sentir, être humain, ce n'est pas produire une réponse, ce n'est pas calculer, ce n'est pas juxtaposer. C'est même justement faire autre chose que juxtaposer, que copier-coller, que faire correspondre des mots-clés à des serrures tragiquement indégrippables, que boucher les trous de nos manques et de nos angoisses par des réponses. Les algorithmes, comme les dogmes religieux, mettent des réponses là où nos questions existentielles ouvrent des béances que nous préférons combler. Comme le rappelle l'étymologie du mot, l'intelligence, c'est cueillir entre, lire entre, choisir entre. Penser, c'est être entre. Penser, c'est organiser ce qu'on a cueilli au fil de nos rencontres. Une promenade dans le dictionnaire de l'Académie française nous apprend que l'usage du mot intelligence a connu une chute libre depuis 150 ans avant d'être ressuscité par le respirateur artificiel de l'intelligence du même nom. La logique du 0 et du 1 fonctionne du côté de la juxtaposition, de l'accumulation de deux chiffres qui représentent le passage ou non d'une impulsion électrique. Or, nous ne pensons pas, nous ne sentons pas, nous ne sommes pas humains de cette manière mécanique. Nos pensées et nos sensations ne sont pas réductibles aux impulsions électriques que reçoit notre cerveau. Nos psychismes ne sont pas nos cerveaux, et nos cerveaux sont quotidiennement transformés par ce qu'ils sentent. Les informations ne se superposent pas comme dans une zone de stockage d'un supermarché. Elles transforment et réorganisent en permanence leur propre structure. Parce que nous sommes des corps parlants, nous ne pensons pas en colonnes de plus et de moins, même si, depuis toujours, des coups de pied beauté cherchent à mettre l'humanité en rang docile, les « on » d'un côté, les « off » de l'autre, les « positifs » d'un côté, les « autres » de l'autre, chacun se retrouvant, au gré des questions posées, du bon ou du mauvais côté de sélection, de très amère, tragique et funeste mémoire. I've got